C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'est ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Par exemple, dire « bonjour tout le monde » plutôt que « mesdames et messieurs, bonjour ». C'est un exemple. L'idée, c'est d'inclure tout le monde. Hommes, femmes, personnes qui s'identifient, par exemple, comme non-binaires. Et ça fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a des gens qui trouvent que ça va trop loin. Et il y a aussi un nouveau pronom là qui s'appelle IL, qui est utilisé par certaines personnes pour inclure il et elle. Je sais, c'est très moderne comme façon de faire, c'est pas très répandu, mais il y a certaines personnes qui l'utilisent. Et là, le pronom IL a fait son apparition dans le dictionnaire Robert et ça fait réagir en France. Il y a même le ministre de l'Éducation de la République française, Jean-Michel Blanquer, qui a critiqué cette décision-là. Ben, on va parler de tout ça avec Pascal Vaillancourt, qui est directeur général de l'organisme Interligne, qui vient en aide aux personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité de genre. Monsieur Vaillancourt, bonjour.
Bonjour.
J'ai bien résumé la nature du pronom « iel » ?
Oui, c'est très bien résumé.
OK. D'où ça vient? Comment c'est né, ce nouveau pronom?
En fait, il faut savoir que là, on en parle comme si c'était une nouveauté. La nouveauté, c'est que le pronom fait son entrée dans un dictionnaire qui est assez officiel, là, le Petit Robert, qui est très connu de tout le monde. Par contre, le pronom a fait son apparition plus autour des années 2010 et a été un peu plus diffusé largement, disons, autour de l'année 2013. Là. Et dans le fond, le pronom répond au besoin que la langue française étant très genrée, c'est-à-dire qu'on très soit masculin ou féminin, homme ou femme, il y a une panoplie de gens qui ne s'identifient plus à ces rôles-là, qui ne s'identifient pas à ces genres-là. Et le pronom « iel » vient répondre à ce besoin d'identification-là dans la langue de ces personnes-là.
OK. Qu'est-ce que ça change pour les personnes qui... En fait, non, je vais vous poser la question différemment. Les personnes qui militent pour que « iel » soit utilisé, pourquoi le font-elles? Qu'est-ce que ça vient chercher chez ces personnes-là?
Mais je pense que le but de la langue, c'est de pouvoir communiquer entre nous, entre les personnes. Et depuis plusieurs années, depuis un bon moment, il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvaient pas dans la langue, qui ne pouvaient pas s'identifier au genre que l'on utilise habituellement dans la langue française. Donc, le pronom « iel » vient les intégrer, finalement, les inclure à la langue française, aussi simple que ça.
OK. Regardez, moi je vous l'ai dit en début d'émission, je vais avoir 50 ans bientôt. J'ai grandi à une époque où il y avait des « il » et des « elle ». Dans les dernières années, il y a une émergence, disons, de la sensibilisation, de la conscientisation là sur des gens qui s'identifient autrement. Vous, Pascal Vaillancourt, là, à l'organisme Interligne, là, parlez-nous de la réalité de ces personnes-là qui ne s'identifient pas ni comme homme, disons, ni comme femme.
Mais en fait, Interligne, là, puis peut-être pour le bien du public, là, Interligne, c'est anciennement la ligne qui s'appelait Gay Écoute dans le passé. Et même nous, on a fait le changement, on est devenu Interligne dans les dernières années parce qu'il y avait des besoins grandissants des personnes LGBTQ, des réalités qui évoluaient ou qui prenaient davantage de plus en plus de place. Et Gaycoute ne répondait même pas à ces besoins-là. On était particulièrement centré sur les hommes gays à l'époque. Mmh. Mais aujourd'hui, notre portrait, depuis qu'on a changé le nom de l'organisme, le portrait est complètement différent. On a beaucoup plus de personnes trans, de personnes non-binaires qui nous contactent aujourd'hui. Et ces gens-là, en fait, un des problèmes majeurs, un des problèmes pour les personnes en général en situation de minorité, c'est souvent le manque de modèles, le manque de représentation, ce qui fait que c'est plus difficile de s'assumer ou de se représenter dans une situation quand tu n'as pas vu des gens avant toi le faire. Donc, le pronom « iel », c'est juste une évolution logique des choses. De plus en plus, des personnes qui s'identifient aux réalités non-binaires sont présentes dans la sphère médiatique, dans les séries télé, de plus en plus. Donc, ça permet aux gens de pouvoir s'identifier, se représenter. Donc, c'est un peu ça qu'on vit aussi chez Interligne. Les gens qui souffrent du fait de ne pas être vus dans la société, de penser qu'ils sont isolés, qu'ils sont seuls dans leur réalité, alors que c'est pas le cas.
Là, je vous lirai pas les commentaires qui rentrent dans ma boîte vocale, c'est pas toujours dans ma boîte de messagerie, Monsieur Vaillancourt, c'est pas toujours chic là. Mais cette nouveauté là, elle est confrontante. Ça dérange beaucoup de gens quand même là, la montée de ce pronom là, IL, IEL. Pourquoi ça dérange comme ça, vous pensez?
Ben, je pense que l'humain, en général, est assez résistant au changement, ce qui n'empêche pas la société d'évoluer, mais Je veux dire, moi aussi, je suis un homme, j'ai 40 ans, j'utilise le pronom « il » depuis toujours, mais ça m'a rien enlevé de m'ouvrir sur ces réalités-là. Ça m'a juste appris à mieux connaître mon prochain ou les gens qui m'entourent. Et je pense que les gens, c'est ça qui aurait avantage à faire, plutôt que de se fâcher, de résister, mais plus de s'ouvrir, de poser des questions, d'essayer de comprendre. Parce que souvent, les gens qui résistent, c'est les gens qui sont pas touchés par les enjeux dont on parle, donc qui se sentent bien représentés dans la langue, qui se sentent bien représentés sur le marché du travail. Donc, ces personnes-là voient pas, en raison de différents privilèges, là, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup aborder, mais c'est quand même ça la situation, voient pas nécessairement les enjeux vécus par d'autres minorités. Alors, quand on est une majorité, je pense que c'est correct aussi de s'ouvrir puis de faire de la place aux autres.
Est-ce que l'objectif, c'est d'abolir « il » et « elle » et qu'on soit juste au « il » pour tout le monde?
Non, c'est une excellente question, parce que des fois, c'est ça, les gens ont l'impression qu'on veut leur enlever quelque chose, loin de là. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent plus représentés par la langue, et on n'enlèvera pas les pronoms. Moi, comme je le disais, j'utilise le pronom « il », je suis bien dans ce pronom-là, et c'est celui-là que je vais continuer d'utiliser. Même chose pour les femmes qui veulent utiliser le pronom « elle ». Mais le but étant juste qu'il y ait plus de pronoms. Et là, on parle beaucoup du « yel », mais il y en a d'autres pronoms. Il va probablement en avoir d'autres qui vont arriver parce que les choses changent, les choses évoluent. Mais l'idée n'est pas de faire disparaître les hommes et les femmes, loin de là, là.
Vraiment intéressant. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée aussi.
C'était Pascal Vaillancourt, directeur général de l'organisme Interligne, qui vient en aide aux personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité de genre. 15h27, dans 45 minutes, on va parler avec le député libéral provincial France Benjamin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, là, on a eu ici à l'émission M. Benjamin, parce que dans sa rue, il reste dans le nord de l'île, il y avait eu une fusillade. Il nous avait dit son inquiétude. Là, avec le décès de Thomas Trudel, on va reparler avec M. Benjamin, essayer de faire le point là-dessus. Comment est-ce qu'on peut, juguler le problème des fusillades à Montréal? C'est un problème qui n'est pas simple, c'est un problème qui est complexe et qui va nécessiter, je pense, beaucoup, beaucoup de concertation entre le municipal, le provincial et le fédéral. OK, on va parler maintenant d'itinérance. Elle s'appelait Elisapi Poutougouk, originaire de Saluette dans le Grand Nord québécois. Elle était itinérante à Montréal. On l'a retrouvée morte près d'un chantier de construction ces dernières heures. Elle avait 61 ans. Son décès rappelle évidemment celui de Raphaël André, un itinérant inou retrouvé mort, gelé en janvier dernier. C'était dans le quartier Myland. Et la mort de Mme Poutougouk rappelle cruellement la réalité de l'itinérance des Autochtones et Inuits à Montréal. Mon ami Christopher Curtis est journaliste indépendant, fondateur de l'infolettre The Rover. Il couvre les enjeux liés à l'itinérance des Autochtones, des Inuits notamment. Il est au bout du fil. Salut Chris.
Salut Patrick, ça va?
Oui, toi aussi j'espère. Dis-moi Chris, qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances du décès de Mme Poutougouk?
Mme Poutougouk, ça faisait quand même assez longtemps que sa santé était en détérioration. Fait qu'on on sait pas si elle est morte d'un arrêt cardiaque ou d'une hypothermie. Tout ce qu'on sait en parlant avec les gens qui la connaissaient, c'est que en fin de semaine, vendredi dernier, elle a quitté un refuge qui s'appelle Resilience Montreal sur la rue Atwater. Elle se cherchait une place pour dormir pour le soir. Elle est rentrée dans un chantier de construction où ils bâtissent des condos. Et elle est jamais sortie du chantier. On l'a retrouvée morte samedi matin.
OK. Donc, elle était dans un refuge, mais quoi, il n'y avait pas de place pour la nuit dans ce refuge-là?
C'est que il y a plusieurs enjeux là-dedans. Le refuge n'a pas la capacité financière et les ressources pour être ouvert 24 heures sur 24. Ça, c'est un problème dans chaque refuge. Dans le fond, le financement, c'est un challenge d'année en année. Il y a ça. Il y a le fait que Madame que Elisapi avait un problème de dépendance d'alcool. Puis souvent, quand on a ce problème-là, on peut pas aller dans n'importe quel refuge. Soit qu'on se fait refuser ou simplement quand on a un problème de consommation, le fait d'arrêter de boire peut entamer des convulsions et même la mort. Alors, la manière des fois de combattre ça, c'est de dormir dehors, soit avec des amis ou avec ou dans un chantier de construction, comme on a vu, évidemment, ça a tellement mal tourné. C'est un problème complexe. Que tu parlais de fusillade dans le nord de l'île, c'est complexe. L'itinérance autochtone est incroyablement complexe aussi.
Chris, tu couvres ça pour ton infolette là, à titre de journaliste indépendant, l'infolette de Rover. Tu plonges dans les enjeux inuits, dans les enjeux autochtones, notamment l'itinérance. Tu dis que c'est complexe. Explique aux gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce qui fait que ces dernières années, on voit de plus en plus d'itinérants inuits à Montréal? Moi, écoute, je suis arrivé à Montréal en 99. Dans mon souvenir, ça existait, mais pas avec l'ampleur qu'on constate aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années?
Premièrement, il y a eu un boom de population assez importante dans le nord. On est rendu à peu près à 14, 15 000 personnes, je crois, qui habitent au Nunavik. C'est dans 14 villages inuits dans le nord du Québec. Et ce boom-là de population, il n'a pas été matché ou il n'a pas été on n'a pas vu une augmentation de financement pour l'habitation, pour l'infrastructure. Alors souvent dans le nord, on va se retrouver dans une situation où on a 12, 13 personnes dans une maison avec deux chambres à coucher ou trois chambres à coucher. C'est pas super confortable. Si une personne dans la maison a un problème de consommation, c'est comme si tout le monde dans la maison avait un problème parce que ça crée des tensions. Mm-hmm. On commence vraiment à sentir le... Écoute, c'est quelqu'un comme Elisipi, quand elle est née dans son village, il n'y avait pas d'électricité. Quand Elisipi est née, il y avait peut-être une ou deux maisons qu'on appelait des matchbox house. C'est vraiment... c'est des shacks. On demande à ces gens-là de faire l'ajustement de leur mode de vie traditionnel à notre mode de vie dans genre un ou deux générations. Puis pour nous, c'est des ajustements qui se sont faits pendant des centaines et même des milliers d'années. Alors, c'est vraiment, leur monde se fait bouleverser. Il y a un super de gros manque de ressources. Plusieurs de ces résidents-là du Nord sont des survivants du système de pensionnat. Plusieurs ont essayé de résister au système de pensionnat et on les a punis en tuant leurs chiens. Oui. Fait que c'est vraiment du monde qui ont survécu de la grosse violence. Et quand tu mets ça dans un contexte de manque de ressources, une ville qui n'est pas nécessairement accueillante pour les Inuits, ça crée une situation constamment dangereuse pour eux quand ils sont dans le sud.
Et dis-moi, qu'est-ce qui fait... tu sais, moi, je suis allé une fois dans le Grand Nord en reportage. C'est extrêmement dispendieux prendre le billet d'avion pour y aller. Comment ces gens-là se ramassent à Montréal? Parce que j'imagine que, bon, ils se disent pas, tu sais, « Ah bon, il y a beaucoup de monde dans mon village, dans ma maison. Je m'en vais à Montréal. » Qu'est-ce qui les amène à prime abord ici?
C'est une très bonne question. Souvent, ça va être un traitement médical. Il y a des hôpitaux dans le Nord. Il y en a une à Coujouac, puis je crois qu'il y en a une à Inuktuak. Ils ont des infirmières dans tous les villages aussi, mais pour quelque chose de compliqué, il faut venir à Montréal. Et souvent, une fois rendu dans le Sud, ça peut être super dépaysant, ça peut être traumatique, mais souvent, on trouve, OK, regarde, c'est moins cher rester dans une chambre d'hôtel pendant une couple de soirées ou je peux survivre un peu plus facilement dans le sud. Tu ne veux pas retourner chez vous parce que peut-être il y a une situation de violence conjugale. Alors, tu restes dans le sud et où tu vis un peu dans les deux mondes. Tu passes une couple de mois dans le sud, tu passes une couple de mois dans le nord. Mais il y a plusieurs personnes qui se ramassent ici puis tu leur parles dans la rue, quelqu'un dans la cinquantaine, admettons, puis ils disent oh, « Moi, je vais jamais retourner dans le Nord, je vais mourir ici, je vais mourir sur la rue. C'est vraiment un drame assez énorme et c'est quelque chose qu'on doit vraiment se battre pour voir ces nouvelles-là dans les manchettes. On doit vraiment se battre pour voir la dignité de ces gens-là représentée dans les médias, malheureusement.
Merci beaucoup, Chris. Merci d'avoir expliqué cette réalité-là à nos auditeurs.
Merci, Patrick. Bonne fin de journée.
Salut, bonne fin de journée. C'était Christopher Curtis, journaliste indépendant. Vous le connaissez peut-être un peu, là, ancien du journal de Gazette maintenant. Fait du journalisme à son compte via son infolettre qui s'intitule The Rover et parle très, très souvent des enjeux qui concernent les Autochtones et les Inuits. 15h36, au retour, on va parler de musique et de télé.
Patrick Lagacé en accéléré.
Bon, on va revenir sur cette flambée de violence par arme à feu. Ça se tire dessus depuis très longtemps dans les rues de Montréal. Un jeune de 16 ans, le Thomas Trudel, est décédé de façon inexpliquée. Dimanche, c'était dans le quartier Saint-Michel, là, Villeray, coin 20e avenue. Avant de passer à l'entrevue avec France Benjamin, l'émission Salut Bonjour à TVA qui a invité un analyste policier qui a fait un fou de lui, le SPVM qui a envoyé un communiqué de presse plus tôt aujourd'hui pour le dénoncer. Il a dit, écoutez, ce gars-là n'a jamais travaillé chez nous et on se dissocie de ses propos. C'est un ancien policier qui s'appelle Daniel Cléroux. On va écouter ce qu'il avait à dire.
Il n'a pas du tout le profil d'être quelqu'un qui fait partie d'un gang. Parce qu'un, de par sa nationalité...
Là, il parlait de Thomas Trudel. Et écoutez, je sais, là, je les lis, vos messages. Là, vous dites... Il y a des gens qui disent, ben, écoutez, on sait bien c'est qui l'a fait. Non, on ne sait pas c'est qui l'a fait, premièrement. Puis les policiers qui sont en train d'essayer d'élucider ce meurtre-là partent pas avec des conceptions semblables. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, écoutez, le crime, là, ça prend plusieurs formes, ça a plusieurs volets. Et il y a des bons Canadiens français baptisés Tremblay qui étaient dans ce qu'on appelait les Hells Angels et autres groupes de motards criminalisés qui, à une époque, moi je suis assez vieux pour m'en rappeler, se tiraient dessus dans la rue et il y a des innocents qui se prenaient des balles perdues, qui ont été estropiés et qui sont morts. Fait que je comprends là que il y a peut-être des profils, disons, plus multiethniques dans les gangs de rue présentement, mais il y a toujours, les policiers qui enquêtent présentement, ils se disent pas, on cherche tel type de personne, ils veulent trouver la bonne personne, la mauvaise personne qui a fait feu. Donc, je trouve que c'est une bonne idée que le SPVM se soit dissocié de M. Cléroux et pour avoir parlé à des policiers aujourd'hui, à propos de M. Cléroux, disons qu'il ne sera pas invité au party des policiers de Montréal. On va aller parler avec Franz Benjamin, député de Viau pour le Parti libéral du Québec, vice-président de la Commission des institutions. On va revenir sur le meurtre de Thomas Trudel en particulier et en général de la flambée de violence par arme à feu à Montréal. M. Benjamin, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
M. Benjamin, rappelez-nous d'abord là, ce qui s'est passé dans votre rue il y a quelques semaines. Je pense que c'est pertinent de le rappeler aux gens, là.
Effectivement, écoutez, il y a quelques semaines, à deux maisons de chez moi, il y a eu une fusillade. Donc, il y a une fusillade et il y a un jeune qui a été blessé. Et lors de cette fusillade, c'était passé à deux maisons de chez moi. Donc, moi, j'étais pas là à ce moment-là. Mais ma fille était à la maison, rentrait à la maison, en fait, lorsque tout le tout s'est produit. Donc, c'est vraiment à deux maisons de chez moi. C'est pas à deux coins de rue, mais plutôt vraiment à deux maisons.
Le premier ministre Legault a dit « Je ne reconnais pas Montréal ». Monsieur Legault est un adversaire politique pour vous, monsieur le député. Là, est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Je ne reconnais pas Montréal. Je ne sais pas à quoi monsieur Legault fait allusion, puisque vous savez, moi, je dirais qu'il est déconnecté de Montréal. Lors de son discours inaugural, monsieur Legault n'a même pas mentionné le mot Montréal une fois dans son discours inaugural. Il n'a jamais parlé de la métropole. Et ça fait des semaines, ça je peux vous le confirmer, M. Lagacé, ça fait des semaines, des mois, que mon collègue Jean Roussel, qui est notre porte-parole en matière de sécurité publique, lui-même un ancien policier, 30 ans de métier, directement sur le terrain, interpelle le gouvernement pour dire, écoutez, on a un enjeu avec les armes illégales, particulièrement, c'est ce que nous disent tous les corps de police du Québec. Et pour répondre, ça prend la réponse, c'est une mobilisation collective qui passe bien sûr par Santor, comme l'a annoncé finalement il y a quelques semaines la ministre de la Sécurité publique, mais aussi ça passe par la prévention, ça passe aussi par une concertation avec le fédéral pour enjoindre le fédéral à faire plus par rapport aux armes illégales. Mais cette mobilisation collective aujourd'hui, M. Lagacé, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au-delà des institutions, ça prend aussi beaucoup plus de soutien pour les organismes communautaires et une mobilisation aussi des parents aussi dans ces enjeux-là.
Mais écoutez, au-delà de ce que M. Legault dit, pense de Montréal, vous êtes d'accord avec lui, là. Il y a quelque chose qui se passe à Montréal ces jours-ci qui fait que, ben écoutez, On peut débattre des mots, monsieur Benjamin, mais Montréal est un peu méconnaissable.
Écoutez, il va sans dire, quand on rencontre des parents, des personnes âgées qui vous disent, écoutez, Franz, moi, je n'ose même plus aller prendre une marche dans un parc le soir. C'est pas normal. Moi, je suis Montréalais depuis des décennies. Et c'est pas mon Montréal à moi, ça c'est clair. Mais une fois que j'affirme cela, mon devoir, mon rôle comme député, mon rôle comme chef de gouvernement, c'est d'agir. Et les actions, bien sûr, le fédéral a son rôle à jouer, mais Québec aussi doit faire sa part. C'est pour cette raison qu'on demande que pour chaque dollar mis sur la répression, c'est bon, que 100 euros, c'est bon, il faut intensifier les mesures, mais il faut qu'il y ait aussi un dollar, l'équivalent, en prévention aussi qui soit mis.
Ça, c'est important que vous le mentionniez, parce que bon, là, il y a une urgence. Il faut agir contre les réseaux qui font passer des armes à Montréal. Il faut agir contre les personnes qui se promènent avec des armes impunément. C'est vrai. Mais si on veut agir pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il faut investir dans plusieurs quartiers. Qu'est-ce que vous espérez comme investissement? Donnez un exemple aux gens qui nous écoutent là, de ce que Québec devrait et pourrait faire.
Écoutez, les chiffres qu'on a annoncés, qu'on a demandé, qu'on a mis sur la table, il y a 90 millions de dollars qui ont été mis pour Centaure. Nous, on demande l'équivalent, 90 millions, qui soient déployés partout. Et c'est pas seulement, c'est pas une réalité montréalaise seulement. À Laval hier, pas plus tard qu'hier, il y a d'autres villes du Québec qui sont touchées par ça aussi. Donc c'est pas seulement une réalité montréalaise. Nous, on demande 90 millions qui soient investis dans les ressources communautaires pour la prévention. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on demande. Mais moi, par exemple, comme député de Viau, vous savez, je suis en train de travailler actuellement avec des groupes communautaires. On s'en vient avec les rencontres citoyennes, les rencontres jeunesse de Saint-Michel. Il va être une mobilisation des acteurs de la communauté, de la collectivité, avec les parents, les familles aussi. Il faut mettre les familles au cœur de tout ça aussi. Les écoles aussi. Quand on parle de prévention, c'est pas seulement les groupes communautaires. Les écoles aussi, dès le primaire, peuvent et doivent jouer un rôle aussi dans cette prévention par rapport à la violence, particulièrement au niveau des armes à feu.
Monsieur Benjamin, vous êtes implanté dans Saint-Michel, c'est votre quartier. Je sais qu'il y a autant d'histoires de criminalité que de jeunes, mais s'il y avait un dénominateur commun qui explique pourquoi un jeune tombe dans un mode de vie criminalisé, se ramasse avec un gun dans ses poches, qu'est-ce qui fait qu'un jeune tombe dans ce mode de vie-là, d'après vous?
Écoutez, par expérience et aussi selon plusieurs recherches que j'ai lues, il n'y a pas un facteur en particulier. Il peut y avoir plusieurs facteurs combinés. Et quand ces facteurs-là se rencontrent, le jeune bascule. Des fois, il y a l'effet de mode aussi. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-évaluer et l'apport de la culture. Il y a une certaine culture de la violence, une culture des armes à feu, d'utilisation d'armes à feu. Il y a aussi il peut y avoir des enjeux par rapport à la famille aussi. Il y a des enjeux socio-économiques aussi. Il y a des enjeux aussi liés à la discrimination aussi. Ce sont tous des facteurs qui peuvent être reliés un à un, qui expliquent. Vous savez, au début des années 80, lorsqu'on a assisté au phénomène des gangs de rue, ce sont les premiers groupes qui se sont coalisés pour former des gangs. Ce sont des groupes qui étaient plutôt dans l'autodéfense par rapport à la violence raciste dont elle était victime. Et rapidement, ça s'est mis à être criminalisé. Mais je vais vous dire un mot, si vous permettez, M. Lagacé, sur le quartier Saint-Michel. Hier, je lisais un communiqué du SPVM. On peut avoir l'impression, lorsqu'on est dans le reste du Québec, que Saint-Michel est à feu et à sang. Moi, le Saint-Michel que je connais, le Saint-Michel dans lequel j'ai grandi, c'est un Saint-Michel où il y a toutes sortes de communautés qui vivent côte à côte, il y a des collectivités qui vivent côte à côte. Bien sûr, il y a de grands enjeux socio-économiques. Et ces enjeux socio-économiques-là n'attendent que qu'on veut des réponses pour les enjeux socio-économiques. Regardez les indicateurs au niveau du taux de revenus des familles de Saint-Michel. Regardez les indicateurs au niveau du taux de chômage à l'heure où l'on parle du plein emploi, de pénurie de main-d'œuvre. Je suis en train de travailler actuellement sur la deuxième édition du Salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel avec des groupes communautaires, avec le Carrefour Jeunesse Emploi et autres. C'est ça aussi. Un quartier comme Saint-Michel, c'est un quartier qui est debout avec des groupes communautaires, avec des institutions. Nous voulons travailler pour donner un meilleur avenir, un espoir à nos jeunes. Dans 30 minutes, je vais terminer avec ça, monsieur Lagacé. Dans 30 minutes, je remettrai une médaille de l'Assemblée nationale un jeune qui a grandi dans Saint-Michel. Il s'appelle Franz Saint-Elmy. Il est maintenant aujourd'hui le 14e chancelier de l'Université de Montréal. Et ce garçon-là, c'est un modèle pour nous. C'est un garçon qui, c'est un monsieur, c'est un homme qui a réussi. Il est de Saint-Michel. Il a choisi de réinvestir dans Saint-Michel à travers un incubateur d'entreprise. C'est ça aussi, le Saint-Michel que je porte, auquel je rêve et que je veux partager avec tout le monde aussi.
Ben, vous avez bien fait de faire la nuance. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, M. Benjamin.
Merci à vous.
Salut, c'était Franz Benjamin, député de Viau pour le Parti libéral du Québec. Et je trouve ça important ce que le député a dit. Écoutez, il y a des dizaines de millions qui sont investis en répression. Parfait. Faut le faire. Ça prend des escouades spécialisées, ça prend du renseignement, ça prend des policiers qui vont chercher les armes, qui vont talonner ceux qui font circuler ces armes-là. Parfait. Faut faire ça. Mais je vous le dis, si on n'intervient pas de façon socio-économique dans les quartiers où il y a des problèmes, où ces problèmes-là naissent, on va se retaper les mêmes problèmes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant.
Avec Patrick Lagacé.
Votre point de repère.
Vieillir, c'est garder sa jeunesse comme un beau souvenir. C'est s'habituer à vivre un peu au ralenti.
Est-ce que vous vous sentez vieux? Est-ce que vous vous demandez à quel âge vous allez devenir vieux? Écoutez, je l'ai dit tantôt, mes camarades, dans 2 mois, je vais avoir 50 ans. Ce sont des questions qui me pendent un peu au bout du nez. Je trouve que ça passe vite, surtout, Catherine et MC. Il me semble que hier, tu sais, comme clac, hier, j'avais 30 ans. Et je me dis que si c'est passé en un claquement de doigts, ben je vais avoir 69 ans dans un autre claquement de doigts. On va parler de tout ça avec le gériatre Kwakdin Nguyen, qui s'est penché sur la question avec la résidente en gériatrie, Myriam Daigneault. Ils ont posé la question à 300 patients et accompagnateurs au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. On leur a demandé à quel âge on devient vieux. Le docteur Nguyen est au bout du fil. Salut, docteur.
Bonjour, M. Lagacé.
Donc, selon vos répondants, là, à quel âge on devient vieux?
La réponse simple, effectivement, c'est 74. Si on prend la moyenne des réponses de nos 300 répondants, c'est ce qu'on a. Mais le 74 cache beaucoup d'informations parce que quand on regarde de façon un peu plus près, ben, les réponses varient beaucoup.
Donc, il me reste 25 ans avant de devenir vieux.
En fait, ça va dépendre de l'âge.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ça dépend de l'âge?
Exactement. En fait, une des choses qu'on voulait voir, là, parce qu'on sait que c'est une question que j'ai fréquemment et qu'on a fréquemment quand on travaille avec des personnes âgées, là, donc à quel âge est-ce qu'on est vieux, puis bon, est-ce que j'ai besoin d'un gériatre, ou en fond, moi, je me sens pas vieux. Donc là, comme gériatre, on sait bien que probablement que l'âge ne capte pas tout, mais en même temps, ça, c'est notre perspective. Peut-être que les patients ont des réponses différentes. Donc là, on a essayé de voir, en posant la question aux gens, si la réponse variait en fonction de x, y variables. Puis on se rend compte que, puis ça nous a pas vraiment surpris, on s'y attendait, que plus on est vieux, plus on trouve qu'être vieux, c'est tard.
OK.
En autre mot, quelqu'un qui a 65 ans et plus nous disait en moyenne qu'être vieux, c'est à 77 ans, alors que les plus jeunes, qui avaient en bas de 65 ans, nous disaient qu'être vieux, c'est à 71. Fait qu'il y a quand même une différence entre la perception qu'on se fait du vieillage, donc quand est-ce qu'on devient vieux, ça dépend de notre propre âge à nous-mêmes.
Être vieux, c'est toujours plus tard, quoi. C'est jamais maintenant.
En fait, une des explications qu'on hypothétise, finalement, c'est qu'il y a peut-être une association négative qui vient avec vieillir. Puis, à quelque part, les gens veulent toujours repousser cet âge-là. Mais à 85 ans, c'est difficile de se dire pas vieux parce qu'il y a aussi quelque chose d'un peu objectif au vieillage.
Oui.
Ça, c'est une théorie possible.
OK. Dites-moi, est-ce que les réponses variaient selon, par exemple, le sexe des gens?
On a aussi, oui, effectivement, remarqué une différence selon le sexe, puis peut-être que ça surprendrait pas les gens là, que les femmes trouvaient qu'on était vieux ou vieille à partir de 75 ans, alors que les hommes disaient 72. Fait qu'il y a quand même une petite différence là de 3 ans. Puis peut-être qu'une explication, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Alors si le vieillage, c'est cette période vers la fin de la vie, le nombre d'années qui nous reste, mais c'est un peu normal que les femmes trouvent qu'on vieillit un peu plus tard. Okay. L'autre, il y a peut-être une autre raison aussi que qu'on souligne, c'est que souvent le être une femme et vieillir peut venir avec un peu plus d'attente et de stigma qu'être un homme. Et ça aussi, ça peut peut-être expliquer qu'on repousse un peu le vieillage.
Et docteur, vous comme gériatre là, qu'est-ce que vous considérez comme être vieux?
La réponse peut être simple, c'est de dire qu'en bas de 70 ans, nous, on trouve ça très jeune. Là, des fois, à la blague, on dit c'est comme ah, ça, c'est un patient pédiatrique en bas de 70 ans. Fait que rassurez-vous, vous êtes dans la néonate, la néonatologie.
Merci, vous me rassurez.
Mais l'autre point, c'est que peut-être un patient qui est vieux, c'est pas juste son âge chronologique, là, c'est pas le nombre de tours autour de la Terre qu'on a fait là, dans notre vie, c'est aussi un ensemble de d'autres facteurs, là, comme l'état de santé. Est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce qu'on est encore actif? Est-ce qu'on est encore autonome, indépendant, capable de faire nos activités? Est-ce qu'on a des troubles cognitifs, qui est quelque chose qui arrive quand même fréquemment quand on vieillit? Donc, nous, quand on dit, ben, ce patient-là, il fait son âge, en fait, c'est pas juste physique, c'est pas juste chronologique, c'est tout ce qu'on associe au vieillage, je dirais, à une certaine fragilité. Cela dit, il faut pas généraliser, là. Il y a des personnes très âgées, parfaitement en forme, qu'on va dire vieilles chronologiquement, mais pas vieilles dans tous les autres sens du terme.
Vous êtes un spécialiste de la vieillesse comme gériatre, docteur Nguyen. Dites-moi, vos meilleurs conseils, là, parce que vous les voyez chaque jour, les patients âgés, votre meilleur conseil pour vieillir heureux, c'est quoi?
Peut-être le premier point, c'est peut-être pas trop réfléchir à être vieux. Des fois, j'ai l'impression que on se fait beaucoup de projections quand on à propos du vieillissement, puis des fois on se rend compte que finalement c'est pas si pire que ça. Puis peut-être c'est pour ça aussi quand on vieillit, ben on se rend compte que d'être vieux, c'est pas si vieux que ça finalement. Donc peut-être un c'est peut-être pas trop y penser, c'est de profiter de la vie, profiter des instants qui passent. Je pense aussi que quand on demande aux personnes âgées versus les plus jeunes si elles sont heureuses ou pas heureuses, la vérité, puis c'est prouvé fois par-dessus fois que les personnes âgées se disent du moins plus heureuses que les plus jeunes. Et l'explication, souvent, c'est que les gens reconnaissent leurs limites. Ils savent combien de temps il leur reste. Donc, on met les choses en perspective. Et donc, on comprend qu'il y a certains projets qui sont peut-être trop difficiles. Fait qu'on on trouve ce qui fonctionne, puis on le réalise. Fait que moi, je pense que ça, c'est une autre clé pour bien vieillir. Et bon, je suis spécialiste de la vieillesse, mais surtout des maladies de la vieillesse, comme gériatre. La petite clé aussi, peut-être, c'est puis les proches aidants reconnaîtront ce que je veux dire, c'est aussi d'accepter de se faire aider un peu. Je sais que dans notre société, on valorise beaucoup l'indépendance, puis l'autonomie pleine, puis l'individualisme jusqu'à un certain point. Mais les personnes qui vieillissent bien, surtout quand elles ont des éléments de déclin, c'est les gens qui acceptent de l'aide, qui sont bien entourés. Et ça vaut pour beaucoup. Fait que ça aussi, c'est un petit conseil, là, c'est peut-être de s'adoucir un peu quand on vieillit. Quand on est autonome, de travailler très fort à le demeurer, mais quand on a besoin d'aide, ben de pas dire non, finalement.
Excellent conseil. Merci. Toujours un plaisir de parler de vieillesse avec vous, Dr. Nguyen.
Merci beaucoup.
Salut. C'est Kwagdin Nguyen, gériatre épidémiologiste et chercheur au Centre hospitalier de l'Université Laval. Vous pouvez lire son article sur le site de l'Actualité.
Patrick Lagacé en accéléré.
Karine Vanas, qui est là en studio avec Dr. Véronique Grelot, gastro-entérologue et pédiatre au CHU Sainte-Justine. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir. Merci, on est très heureuse d'être là. C'est fun de faire ça en vrai aussi.
Réciproque, écoutez, ça s'appelle le gala des petits bedons. Mm-hmm. Et c'est un gala qui est organisé par les gastro-entérologues de Sainte-Justine. C'est une cause, moi, qui m'a interpellé quand j'ai été approché pour en parler. Et j'ai fait une chronique là-dessus samedi dans la presse. Les maladies inflammatoires de l'intestin, je l'ai expliqué. Ma mère en a souffert toute sa vie à l'âge adulte après ma naissance. Et il y a des enfants et des adolescents qui sont aux prises avec ça. Je sais à quel point ça peut être incapacitant. D'abord, j'ai commencé avec vous, Dr. Grelot. Le gala des petits bedons, c'est pourquoi?
Pourquoi? C'est pour financer la recherche. Dans le fond, avec l'argent qu'on amasse, on veut financer une banque de tissus biologiques. Les tissus biologiques, ce que c'est comme gastroentérologue, par exemple, on fait beaucoup de gastroscopie et coloscopie, où on va voir dans l'estomac, dans l'intestin des patients, on prend des biopsies. Normalement, on prend nos biopsies, c'est analysé en pathologie, on a un résultat, puis ça s'arrête. Mmh. On peut pas réutiliser ce tissu-là qui est analysé.
On se débarrasse du tissu. Ouais.
Il est comme fixé sur une lame, fait que on peut pas faire de recherche avec. Donc, l'idée est venue il y a 5 ans, dans une réunion de groupe, on s'est dit, faudrait, tu sais, débuter une biobanque, on en a besoin, ça faciliterait la recherche, mais c'est pas si simple que ça à mettre en place. Mmh. Et là, on s'est dit, on se lance, on a fait une première édition. En 2019, organisé par notre nutritionniste, notre assistant de recherche à l'époque, une première petite édition, puis on s'est dit, cette année, on voit grand. Même si c'est la COVID, on fait ça virtuel. Mm-hmm. Je suis allée chercher Karine Vanas, on s'est dit, là, on veut vraiment viser grand pour partir la banque puis avoir une pérennité de cette banque-là. Donc, en ayant la banque de tissus, quand on fait nos examens, on peut garder les biopsies supplémentaires, ça va être congelé au centre de recherche et on peut garder aussi salive sans d'autres tissus oui. biologiques. Et d'avoir tout ça, ben, tu sais, c'est une mine d'or. Dans le fond, oui, on prendrait les biopsies des maladies inflammatoires intestinales comme la maladie de Crohn et colite ulcéreuse, mais il y a d'autres maladies aussi. On veut étudier, on a des questions de recherche spécifiques. Il y en a qui concernent la maladie inflammatoire intestinale, mais il y a d'autres questions sur d'autres maladies. On voit des maladies cœliaques, œsophagites et eosinophiliques, les syndromes de l'intestin court. Il y a vraiment plusieurs maladies qu'on traite en gastro. Donc, on a des différentes questions de recherche pour ces différentes maladies-là. Et même les patients qui vont avoir un tissu sain avec des biopsies normales, ça va être intéressant de comparer aussi. Donc, on fait ça at large pour répondre à différentes questions de recherche, mais c'est sûr que ça va vraiment faciliter nos recherches.
Mais tu sais, dans le fond, une des choses, moi, que je comprenais assez rapidement, là, quand toi puis ton équipe, vous avez commencé à me parler du projet, premièrement, l'initiative qui est vraiment d'eux, là, quand tu disais en présentation, Patrick, que c'est vraiment une initiative des gastro-entérologues et pathologues de Sainte-Justine, c'est leur projet, là. Il n'y a pas une équipe derrière. Ils organisent tout, là. Ils vont chercher les lots pour l'encan. Véronique s'est fait appeler pour savoir qui avait organisé la qualité des lots à l'encan par d'autres événements. Puis c'est ça. Donc ça, au départ, c'est vraiment, c'est ça. C'est leur bébé, c'est leur intention soutenue. Ils gardent leurs patients pendant ce temps-là, mais ils mettent vraiment beaucoup d'énergie. Mais une des choses, moi, que j'ai comprise très rapidement aussi, qui m'interpellait, c'est vraiment de dire, ben, quand on rencontrait les parents, autant les enfants, tout ça aussi, une des choses qui ressortait, c'est qu'il y a beaucoup de... Dans le fond, le temps peut être très, très long avant de trouver les bons médicaments appropriés.
Beaucoup d'essais et erreurs.
Beaucoup d'essais et erreurs. Puis ça, c'est pas, ça témoigne pas de votre incapacité, c'est pas ça du tout. Au contraire, ça témoigne juste de la réalité de là où en est la recherche maintenant, qui fait en sorte que des enfants qui sont en croissance, avant de trouver le bon médicament qui va être efficace, qui va leur permettre de poursuivre leur croissance de façon saine, bien, une année, ça peut faire vraiment la différence. Et la recherche va permettre plus rapidement de venir voir dans quelle catégorie ils tombent, d'être capable de leur donner le bon traitement plus rapidement.
Karine, quand tu as accepté d'animer le gala des petits benons qui va se tenir en ligne demain, là, on peut se renseigner sur le site de la Fondation Sainte-Justine, tu es allée voir les jeunes qui sont hospitalisés. Qu'est-ce qui t'a frappé dans cette visite-là?
Mais tu sais, une des choses qui, puis que Véronique m'avait déjà dite au départ aussi, c'est que c'est des maladies dont on parle peu. C'est des maladies qui paraissent pas. Tu mentionnais dans ton article de ta mère qui est pliée en deux, qui a mal au ventre. On peut associer ça juste à des crampes menstruelles. Oui. Juste, t'as pas mangé la bonne affaire. Ton enfant vomit quand il mange. Amène-le chez grand-papa, grand-maman. Nous autres, on va lui donner. On va le faire manger, tu vas voir. Comme si c'était soit un manque de volonté, un caprice de la part de l'enfant aussi. Donc, la compréhension en profondeur. Moi, j'ai des gens qui sont cœliaques autour de moi. Puis c'est ça, souvent, ça passe pour un caprice, ce genre de maladie-là. Parce que, de façon visible sur le corps, c'est ça.
Il n'y a
pas de marque. Donc, les tabous sont reliés autour de ça aussi. On parlait, quand je suis allée sur place, il y avait une mère et son enfant qui étaient là, autochtones. Donc, juste la cirrhose autochtone, on pense que c'est chez les enfants. Est-ce que c'est associé à l'alcool? Ben non, pas du tout. C'est juste une maladie qui touche, entre autres, les communautés autochtones. Donc, c'est très... tu le mentionnais dans ton article, Patrick, pas encore merci pour ça, parce que ça touchait vraiment au bon point. Parler de diarrhée, on est inconfortable un peu. C'est pas très sexy. Puis dans une période, on dirait, où là, on décloisonne tout, on dirait qu'on ose parler d'un peu de tout, là. Puis qu'on dirait qu'on réalise de plus en plus que les gens vivent des difficultés dont on n'est vraiment pas conscient. Puis ça fait partie des maladies qui sont vécues dans la honte, dans la gêne. Donc, juste que là, les gens écrivent, qui disent, ben écoute, moi, j'en ai pas parlé, mais effectivement, mon enfant vit avec ça, puis
j'ose pas en parler à ses amis. J'ai eu plein de messages de parents qui me racontaient.
Oui. Puis nos patients nous le disent, c'est comme si on a déjà, tu sais, le gala n'a pas eu lieu encore, il est demain, mais déjà, on a brisé des tabous, que vous en parliez, que Karine aussi en parle dans son Instagram et tout ça, puis on a fait un site Facebook et Instagram où on met des posts des patients, on démystifie des mythes par rapport aux maladies digestives. Ces gars-là des petits bedons, ça s'appelle. Puis là, déjà, les gens vont là, puis en tout cas, nos patients nous le disent, « My God, j'ai jamais osé parler de ça. » Puis là, j'en ai parlé aux nouvelles, puis ils ont confiance en eux. Moi, déjà, la magie s'opère. Tu sais, il y a comme tout un engouement depuis le week-end, mais...
Puis je pense qu'une des choses, en fait, aussi, c'est que des fois, de solliciter les gens pour donner à une fondation, ça peut paraître très flou. Là, le projet... Il est concret.
Il est très concret.
Il est très concret. Puis quand cette banque-là va être mise sur pied, comme disait Véronique tout à l'heure, c'est la pérennité, s'assurer qu'on puisse aller, qu'ils puissent eux aller au bout de ce projet-là aussi. Mais c'est vraiment pour ça. Donc ça, je pense que les gens sont fiers de participer aussi à cette initiative-là de la part de ces médecins spécialistes.
C'est venu me chercher parce que bon, je l'expliquais dans le papier, puis j'en ai parlé avec Dr. Grolot. Ma mère a souffert de la maladie de Crohn, c'est ce qui a fini par la tuer. Et le protocole des essais-erreurs, je l'ai vu là en direct quand j'étais jeune enfant ado. dos. Un traitement, on essaye quelque chose, ça marche pas, ça marche un peu. Une opération, une hospitalisation, ça a vraiment plombé sa vie. Et là, quand vous m'avez parlé de la banque, Dr Groslot, l'espoir, c'est d'avoir un traitement, disons, plus ciblé. Mais il y a la maladie, il y a Crohn's, il y en a d'autres. Quand je suis allé vous visiter avec vos collègues, là, merci encore de m'avoir accueilli, on a parlé beaucoup de qu'est-ce qui cause cette maladie-là, et vous m'avez parlé de quelque chose de fascinant. C'est une maladie, ce sont des maladies principalement de monde développé. Les gens qui viennent au Canada du sous-continent indien, ils n'en ont pas. Les gens qui viennent du Maghreb en ont pas tant que ça. Ils arrivent ici, dans le monde industrialisé, et ils développent. Qu'est-ce qui cause ces maladies-là?
Fait qu'on n'a pas encore exactement la réponse, puis c'est pour ça qu'il faut continuer la recherche, mais on sait qu'il y a une partie de l'environnement. Parce que, comme vous dites, si on va en Afrique, puis on observe sur le continent, il en développe pas de maladie inflammatoire intestinale, puis les patients arrivent ici, et bang, pas longtemps après, ils en développent une. Fait qu'on sait qu'il y a l'environnement, puis de plus en plus, on a un environnement stérile. Donc, tu sais, dans les grandes villes, les pays développés, tout ça, on sait qu'il y en a plus que dans... fait qu'on sait qu'il y a probablement une partie d'exposition aux germes. Une autre évidence qui va dans avec cette théorie-là, c'est qu'un enfant qui a eu beaucoup d'antibiotiques en bas âge, par exemple, avant l'âge de 3 ans, on sait que ça va favoriser le développement d'une maladie inflammatoire intestinale versus un autre enfant. Donc, plus on a d'antibiotiques...
Parce que les antibiotiques atteignent la flore intestinale.
Oui, c'est ça. Ils défendent notre flore intestinale, donc ça affecte notre microbiome.
Et vous m'aviez dit, on parle des germes, OK? Il y a une théorie, là, il semble que ce soit pas prouvé.
Ben, tu sais, je pense que oui, on le sait. C'est sûr qu'il y a un lien avec ça, mais après ça, c'est pas juste ça. Je pense que c'est ça. C'est pas que c'est pas prouvé, c'est qu'on sait que c'est multifactoriel.
Mais m'avait dit quelque chose d'intéressant. M'avait dit que quand la suce de votre enfant tombait quand elle était petite, vous la preniez, vous la donniez.
J'ai jamais nettoyé. Je fais mon coming out, j'ai jamais nettoyé les suces de mes filles en passage.
Mais c'est en pensant à ça.
Oui, en pensant à ça parce que je le vois, tu sais, je veux dire, on a un bébé, là, puis la première chose qu'on se met, c'est tout désinfecter les surfaces, puis là, faut nettoyer les... Après, fait que là, je le vois qu'on est là avec le Purel partout, surtout ma première fille. Puis à un moment donné, je me dis, on va pas chercher midi à 14h, on sait que les pays industrialisés, plus développés, tu sais, puis on sait que les germes ont un rôle à jouer dans le bas âge. Par exemple, l'allaitement maternel protège. Donc, l'idéal, tu sais, un bébé qui grandit, mettons, en Afrique, exposé à d'autres bactéries et compagnie, qui est allaité par sa mère, qui ne reçoit pas d'antibiotiques, on sait que ça, il y a beaucoup moins de chances. Versus l'autre qui va boire la formule, va être stérilisé au maximum, puis en plus, antibiotiques par dessus antibiotiques, ça, on sait que ça favorise. Mais après ça, ça ne veut pas dire qu'il va le développer. C'est pas cause à effet, là.
OK. Bravo pour ce que vous faites. Je pense que c'est très important. Karine, dernière question.
Oui.
Je t'imagine très sollicité par des bonnes œuvres, des demandes d'animation, etc. Pourquoi cette cause-là, qui est peu connue, celle des maladies inflammatoires chez les enfants?
Ben, premièrement, justement parce que c'est peu connu. Des fois, il y a des causes pour lesquelles on nous approche où tu sais que d'associer ton nom peut faire une différence. Tu fais la même chose aussi, puis bravo de le faire. Puis c'était vraiment le dévouement de l'équipe, en fait, dès le départ aussi.
Oui, sont admirables, l'équipe des gastro-entérologues.
Tu décrivais, Patrick, dans ton article, le papier dans le bureau de Véronique, tu sais, puis le bureau de médecin, on peut imaginer ça très, très grand, avec une vue sur la ville. Là, c'est pas ça du tout, là, je vous dis tout de suite.
Belle vue sur le parking.
Exactement. Mais donc, un tout petit bureau, et là, t'as ce gros papier-là pour la planification du gala. Donc, c'est ça, de voir l'enthousiasme, le dévouement, l'implication sincère de dire « Hey, là, on a une solution, ça peut faire une différence, on y croit, puis on plonge. » Donc, ça, moi, ça m'a vraiment touchée. Puis je trouvais que, il me semble que, moi, ça me fait du bien d'entendre ces histoires-là, de participer à ce genre de projet-là, puis je me dis que les gens aussi. Donc, de penser que leur don, maintenant, va participer à une initiative qui va réellement faire une différence dans le futur. Il me semble que c'est le fun, c'est ainsi, ça.
Bien dit. Ben,
est-ce que je peux dire le lien Internet en terminant? Parce que les gens...
J'allais le dire, mais allez-y, Dr Groslot.
Okay, parce que là, le gala virtuel est demain. Là, on en parle, mais c'est ça, ça se fait demain.
On peut aller sur le site de la Fondation. Ouais. Non, c'est pas ça?
Non, c'est ça, parce que il y a la Fondation Sainte-Justine at large, mais nous, on est un projet parmi la Fondation. Okay. Donc, je sais que lundi, la Fondation a été débordée par les appels, les emails et tout ça. Fait que je vais diriger les gens. Mes collègues à la Fondation vont me remercier de ça. Donc, le site, c'est galadespetitsbedons.org. galadespetitsbedons.org. Puis, en allant là-dessus, bien, tout de suite, vous allez voir que vous pouvez faire un don ou acheter votre billet pour le gala qui est demain soir.
Et juste mentionner aussi, on parlait de la pérennité tout à l'heure, ceux qui auront envie de faire un don, puis il y a des familles qui l'ont fait, il y a des fondations qui l'ont fait aussi, mais si vous avez envie de faire un don qui va être effectif cette année, mais qui va se répéter l'année prochaine, dans deux ans aussi.
Ça se peut.
Ça se peut,
ça serait génial.
Exactement.
Puis à ce moment-là, si vous voulez être partenaire à long terme, vous appelez Dr Groslot à Sainte-Justine direct.
Puis si vous avez raté l'adresse, Gala des petits belons dans Google. Vous allez tomber dessus. Félicitations. Bonne chance demain.
Merci.
Et Dr. Groslot, merci de nous voir. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et pédiatre au CHU Sainte-Justine.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.